Ma grand-mère habitait là. Parce qu'il a fallu qu'elle laisse la bordure. Mais c'est pas branché là-bas. Je vais les brancher. Pareil.
Ah, oh merde.
Parce que je veux pas qu'il y ait la lumière partout. Si je branche pas là-bas. On capte des fois pas. Là, c'est... On capte que sur les grandes zones. C'est les grandes, hein.
Oui.
Et là qu'on trouve.
Mon enfance.
Oui. Et moi, il y a une chose parce que.
Moi, je suis né au Jarissou et je passe bien des moyens.
Au Jarissou.
C'est le Jarissou, c'est le village. Là.
C'est le village. Pourquoi ils ont appelé rue Antoinette? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, Antoinette?
Ma grand-mère.
Mais c'est la mère.
Ma mère, vous voyez, parce qu'elle avait été une élève de Suzanne d'accord. Et elle avait bien appris, elle avait une bonne tête. Mais comme il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait que deux filles, il fallait qu'il y en ait une qui reste avec le grand-père. Alors c'est ma mère qui était restée là, alors elle a toujours eu en travers parce qu'elle pouvait, en géographie, en histoire, elle était imbattable.
Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'elle était très cultivée.
On disait que M. Dan Lacorse avait été une très bonne institutrice, mais bon, il a fallu rester à la terre. Mais on restait avec les parents autrefois, on ne laissait pas les parents comme maintenant. Maintenant ils disent aux parents, moi je veux faire ça, vous démerdez, ça ne se passait pas comme ça. Alors... ma mère, c'est pour ça qu'elle passait pour être un peu célèbre dans la commune.
Ben oui.
Alors ils m'ont proposé de mettre, je serais contente, j'ai dit oui.
Alors ça avait été une élève de Suzanne Lacor.
Oui.
Et est-ce que vous avez des souvenirs quand Suzanne Lacor a été nommée ministre?
Non, j'étais enfant, quoi,
oui.
J'avais quoi, à l'époque, puisque pendant la guerre j'avais 11-12 ans, quoi.
Ah, ouais.
Mais j'en entendais beaucoup parler par ma mère.
Ah oui.
Elle était sous-secrétaire d'État à l'enfance.
Eh oui.
Alors, il y a une histoire d'elle, moi, que je peux raconter. Bon, pas peut-être du coq à l'âne. Mais une fois, il y a des maquisards qui sont venus le soir chez nous, pour vous parler de Suzanne d'accord. Alors, on avait tué le cochon, ma mère faisait les boudins, les vieux faisaient aux cartes. On habitait là-bas, que c'était chez mes parents, là, c'était à ma grand-mère.
D'accord, Antoinette.
Voilà. Alors, il y avait ma grand-mère, la Marthe, la mère de ma mère.
Oh.
Alors, comme il avait fallu loger des Alsaciens, des réfugiés, il était dit que ma grand-mère pouvait habiter dans la grande pièce que je t'ai montrée l'autre jour et céder ici aux Alsaciens,
d'accord.
Ce qui a été fait. Alors, on était là-bas, donc, ma mère, on a tué les cochons, puis les cartes. Mon frère écoutait les Anglais au poste, là, on s'était brouillé, tout le jour. On entendait des choses, la chienne aura ses petits chiots, ou demain il pleuvra, mais ça voulait dire quelque chose, les maquis étaient au courant, parce qu'ils avaient des émetteurs. Par exemple, demain il pleuvra, ça voulait dire qu'il y aurait peut-être un parachutage, tu vois, c'était codé. Alors, tout à coup, à 11h du soir, ça fait drôle, hein, surtout pendant la guerre, là, que vous voyez pas beaucoup de monde. Voilà, quatre maquisards, deux qui étaient habillés un peu en aviateur, là, et les canons bleus, tout. Et après, on a su plus tard qu'il y avait deux qui avaient été parachutés dans la forêt barade, des Anglais, pour leur apprendre le sabotage des voies, faire sauter les voies, les locomotives et tout ça. Parce qu'alors, parachuter du plastique, tout ça, mais ils ne savaient pas s'en servir, les gars. Alors, il y avait deux en aviateur, moi j'étais couché, mais j'entendais. J'entendais, puisque la chambre était à côté de la cuisine. Alors, on n'ayez pas peur, on n'est pas des GMR. Les GMR, à l'époque, c'était comme les CRS, maintenant, la police de l'État, quoi. Alors, on vient là, parce qu'on nous a indiqué de venir chez vous, on voulait coucher dans un lieu sûr, pas loin de la gare, parce que demain matin, on fait sauter la locomotive à Niversac. Mon père, il dit, mais c'est que pour vous faire coucher, nous, on a des réfugiés, là, en parlant d'ici. Mais on ne demande pas de maison, on demande de la paille. Alors, mon père, on mettait la paille là-bas, sur la petite grange, quand on battait. Alors, il y a de la paille ici, mais je vous prêterai les couvertures, quand même. Ah ben si vous voulez, oui, pas de problème. Alors ils ont parlé tout le moment, moi j'étais au lit et tout ça, j'entendais pas tout ce qu'ils disaient. Alors il y en a deux qui se disaient du sardadé, les deux autres, mais pas les autres, c'était les Anglais. Alors ma mère dit bien, vous goûteriez les boutins. Oh non, non, on a soupé, comme vous voulez me dire, on a soupé, non. Mais on s'est toujours demandé qui c'est qui les avait envoyés chez nous, un lieu sûr.
Vous l'avez jamais su.
Mais comme il y avait un nommé d'Archand, la voix bite, Feissagué, qui était célibataire, il avait bu une femme, mais elle était repartie à Tours, parce que c'était un coureur de femmes, tu vois. Alors, on a toujours pensé, on avait entendu dire qu'il faisait partie des FTP. C'était le maquis un peu communiste.
Oui.
Et c'est là qu'on voulait tant aux Allemands pour les sabotages. Alors, on a toujours pensé que c'était lui qui leur a dit de venir là. On a pensé après, peut-être pas, je sais pas. On se demandait, puisqu'il disait un lieu sûr pour aller dans la gare. Alors, mon père, il dit, mais... Faites bien attention le matin quand vous sortirez, que personne ne vous voit, parce que moi j'ai fait la guerre de 14, je connais les Allemands aussi. Quelqu'un dénoncé, ils viendront nous tuer, faire brûler les gens, ils sont. Mais vous inquiétez pas, bon, on les a discuté tout un moment, et puis avec une lampe, une lanterne avec une bougie, pendant la guerre, il y a des coupures de courant. Mmh. Alors, on ne trouvait pas de pile même pour les petites choses. Mais là, il y a l'électricité quand même, hein. Il faisait des coupures, ce soir-là, il n'y a pas de coupure. Et pour les monter au grenier, il a pris la petite lanterne avec une bougie. Alors, il les a montés en haut, les couvertures, bon, ils ont pendu tous leurs trucs après, la charpente, les mitraillettes, il y avait des grenades, les musettes plastiques, tout le bazar. Et alors, vous savez ce que je vous ai dit, demain matin, je vous montrerai le café, et faites bien attention que personne ne vous voit sortir. Bon, vous inquiétez pas. Alors mon père, il n'a pas dormi tranquille quand même. Et le train passait à 7h30 le matin. Et alors, quand il était 7h15, il entendait le train loin le matin, on entend loin le calme, là. Regarde, donc, tac, 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 tac. Alors il va vite, les gars, j'entends le train, mais regarde-te, non, si vous ne voulez pas le manquer, dépêchez-vous, je vous monte le café. Alors il a monté le café, il a mis la bouteille, il a mis le café à la bouteille, la bouteille de gnôle, un peu de sucre et des verres. Alors, quatre verres. Là, il a fait boire le café là-haut et tout. Allez. Maintenant, vous savez ce que je vous ai dit. Alors, il y a qui était encore endormi. Là, ils se sont bien réveillés pour boire le café. Et puis, se sont ranachés, mais jamais descendus. Même mon père entendait toujours ce train. Ils vont louper le train, il y a même. Et puis, tout à coup, ils descendent les uns après les autres. Alors, il dit, faites bien attention, parce qu'ils se mettent au milieu de la route là-bas, ils roulent les cigarettes. Il dit, mon père, pour que personne ne les voit. Alors, ils roulent les cigarettes, tout ça, et puis, allez, voilà, au revoir, monsieur, dames, merci beaucoup. Alors, ils sont partis. Il y a Gravilla, le matin, qui se levait de bonne heure pour laver ses topinambours. Il y a une citerne à ciel ouvert là-bas, comme on en a une là, pour faire boire les vaches. Hein. C'était l'eau des toits qui venait. Alors, il se levait de bonne heure pour laver ses topinambours pour les cochons. Quand il les a vus qui descendaient, ils avaient passé déjà. Alors le matin, ils disaient, ça, en patois. Parce que, ils parlaient tous en patois, mais moi je vous parle en français. Ils disaient, je sais pas qui c'est, ces types, ce matin qui descendaient, ils étaient quatre. On aurait dit qu'ils avaient des fusils, des musettes, je sais pas, tout un bazar. Ils passaient par des grenades et tout. Alors mon père dit, je les ai pas vus, moi. Vers quelle heure? Oui, pour être 7h05 par là. Alors mon père dit, je ne l'ai pas vu moi. Parce que mon père dit, ils vont louper le train, il entendait qu'il arrivait, tac, contre la baillère de Beauzin. Alors, il n'y avait pas tant d'arbres comme il y a maintenant derrière chez nous là-bas. Alors on pouvait voir le pignon de la maison de... À l'époque c'était Poumerie qui habitait. Alors ce pignon en pierre blanche là, on voyait, si les gens passaient devant, on voyait les silhouettes quoi. Alors mon père dit, regardez s'ils passaient, ils vont louper le train. Parce qu'il entendait vers là-bas, vers ma cabane qui arrivait. Mais il les a vus les uns après les autres qui ont passé. Ah, c'est, oui, ils sont arrivés juste. Alors c'est là que je voulais en venir. Ils trouvent Suzanne Lacor et l'arrière-grand-père des Mandral de Ménin, le père de Jean. Parce qu'il avait été à la SNCF, il payait presque pas de voyage. Et Suzanne Lacor non plus, sûrement. Alors ils allaient toutes les semaines à Périgueux voir s'ils pouvaient trouver des fringues. Parce qu'on ne trouvait que de la saloperie, là, tenant. On achetait des chemises en rayon, les femmes les lavaient deux fois, ça s'effilouche et tout. Alors ceux qui pouvaient aller en ville, les grands magasins, ils arrivaient des fois à trouver. Alors donc toutes les semaines, ils allaient à Périgueux. Alors ils trouvent, mais c'est dans, vous allez à Périgueux. Alors, Mlle Lacord dit oui. Ben, on vous prévient, si vous êtes à Périgueux, vous pouvez rester là. Parce qu'en hiver, quand on fait descendre, tout le monde a fait sauter la locomotive. Oh, elle dit Mlle Lacord, c'est une plaisanterie. Ah, écoutez, peut-être que c'est une plaisanterie, mais vous le dites. Finalement, à l'Eversac, tout le monde en bas, et puis ils ont fait bourrer la locomotive, là, les fameux Anglais. Là. Et ils ont dit au gars, tu la lances et tu descends, tu sautes. Elle a sauté avant d'arriver à Saint-Georges. Alors, Suzanne Lacord et le père Mandral sont revenus à Jean-Pied. Alors, c'est le père Mandral qui l'avait raconté ça après. Ils étaient revenus à pied, que les maquisards leur avaient dit ça. Ils ne croyaient pas, eux. Alors, ce truc m'a marqué, parce que c'était Suzanne Lacord qui avait... Je vais astiquer, mais il faudrait que je fasse... Je vais encore en quitter, ça.
Il faut vivre 100 ans de plus, hein.
Oh... Mais quand je vais m'en servir, je astique les machines, mais c'est tout. J'en ai des bagages, racontez pas tout ce que je savais, parce que, bon, quand je regardais les moutons le dimanche, et...
j'apprenais... Vous avez quel âge, là
quand, ben, 11 ou 12 ans, là.
C'est 11 ou 12 ans.
Alors, j'amenais le petit accordéon diatonique de mon frère, parce qu'il faisait des balles, déjà, à Jean, là, comme petit diatonique. Tout dans les campagnes, tout le monde jouait le petit accordéon diatonique. Il faisait des balles clandestines, tu vois, mais il n'a pas fait longtemps, puisqu'après, il a fait comme les autres, il est parti au maquis. Alors moi j'ai pris cet accordéon quand j'allais garder les moutons. Alors il y avait un voisin qui jouait l'accordéon aussi, là, Yvon Fort qui s'appelait. Il avait un an de moins que mon frère, mais il avait vendu la maison. Là, et il était parti à Périgueux. Alors c'est lui, un jour il pleuvait, il dit viens je t'apprends à jouer l'accordéon. Parce qu'il avait remarqué que je prenais le soufflet de ma mère entre mes jambes, je l'ouvrais comme un accordéon. Oh le gouillassou, il dit à ma mère, il aimera l'accordéon. Oh pèse-tu, fais l'âne, donne-moi ce soufflet. Bouh, bouh, me souffler le feu, puis me le pendait assez haut pour que je ne le rattrape pas. Alors, mais moi, après, je trouvais un bout de carton, je pliais un accordéon, dessinais des boutons, gni, 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 je m'amusais, quoi. Tu vois, je voulais jouer à l'accordéon, j'étais imprégné de ça. Alors, le Yvon, un jour, me dit, viens Pierrot, là. Je dis, qu'est-ce qu'il me veut, il pleuvait un peu. Je rentre, il va chercher l'accordéon, il en avait un aussi, il me le met sur les genoux, je t'apprends à jouer à la pimpolaise, alors il me met là, après et tout. Allez, appuie là, alors, pousse là, là. Mais laisse ton doigt, allez, recommence, là. Maintenant, laisse ton doigt, tire, là. Parce que le diatonique, ça fait deux sons différents, la note, il le touche. Là, là. Mais pareil, la seconde. Alors, avant que ça fait le tour des boyaux de la tête, comme je disais, moi, il fallait. Bon, alors comme l'autre, alors, là, 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 ah, je commençais à comprendre, là, 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 et l'autre, mais là, c'est là, là, tire, là, 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 petit à petit, là, 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 l'air, j'ai appris cette chanson, et je l'ai rabâché en gardant les moutons, et après, quand j'ai su celle-là, instinctivement, tout est venu, il y a eu notre amour, tout ce qui se jouait à l'époque, mon frère, j'allais le bal clandestin, là-bas, où habitait Félix Saguet. Mon père, tu serais pas mis en ton lit, toi, mais j'étais hanté par l'accordéon. Alors, je les voyais jouer, les gars, moi, ça donnait envie. Alors, j'emmenais cet accordéon avec mes moutons. Et un matin, les moutons se rassemblent, soufflaient, tapaient du pied. Ça me rappelait ma grand-mère qui disait que, par sa mère à elle, que quand les loups attaquaient les moutons, les brebis le sentaient, se rassemblaient, elles soufflaient, tapaient du pied. Alors moi, il y a du danger, là, c'est trop bizarre. Moi. Ça m'a rappelé ça, il n'y a pas de loup. D'un coup, je vois les branches qui remuaient, c'était trop maquisard, là, avec les mitraillettes. Chut, n'aie pas peur, on est maquisard, on t'a entendu, l'accordéon, on est venu te voir. Mais n'en parle pas à tes parents. Hein. Ils étaient appuyés, personne ne le savait que moi. Alors j'en avais parlé à personne. Je savais quand même, 11 ans, 12 ans, que c'était sérieux ça. Alors je n'en parlais pas à mes parents, j'allais me rassurer. Alors ils venaient me voir chaque fois que je jouais, parce qu'on monte la garde là, si on voyait les Allemands, on doit aller prévenir les autres, qui étaient au fond des ballons depuis mai. Alors ils se faisaient de Nantes, les deux gars, l'autre, je ne sais pas.
Et donc les parents ne le savaient pas?
Ah non, je ne disais pas. Hein. Alors je les renseignais, les Allemands passaient à Jean, ils avaient passé peut-être un mois avant, ils avaient fouillé tout le bourg, là, on était à l'école. Mais on a été rassemblés sur la place, même les de Césac, tout le monde, Madame Césac en peignoir, tout le monde est descendu sur la place. Là. Alors ils ont fouillé le bourg, ils auraient trouvé une arme, même une carabine, je crois qu'ils auraient fait brûler le bourg et peut-être on aurait été tous fusillés. Alors ça s'est passé comme ça. Ça s'est bien passé. Et après, ils sont partis sur les Meirats. Alors moi, je leur ai dit, ils avaient passé à Jean, ils ont fouillé tout. J'ai renseigné qu'ils avaient passé, parce qu'ils aimaient savoir ce qui se passait. Alors mon frère, Père Bardi, qui venait de sa vigne, au Moulin, là, au Genet, il avait une vigne là-haut, et nous aussi. Alors, il avait été prisonnier, le vieux Bardi, donc il parlait un peu allemand. J'aurais fait demander s'il y avait d'autres personnes dans les champs. Il avait mon frère qui faisait des fossés pour planter la vigne au Moulin, là. Il dit, si, il y a un voisin qui a... Ben, appelez-le en allemand. Appelez-le, tout le monde dans le bourg. Alors, Paul, mon frère. Oui, d'avant, le gendarme a dit qu'est-ce qu'il venait dans le bourg, tout le monde est dans le bourg. Ah, mon pocha père lourd aussi, il voulait passer par la côte des rochers. Mon lieu, fais pas, quand je dis, viens, parce que t'as un tir à des chures. Ils étaient là, postés les mitrailleurs, le Moulin, là-bas, tout le cerné le bourg. Ils avaient même, en haut, là, ils avaient cerné le bourg. Et là, on a vu les tours, après, ils avaient mis les pieds des mitrailleurs au coin de la ville, était saigné, là.
Mais pourquoi? On sait pourquoi ils étaient là, ils cherchaient des maquisards?
Ah, ben, ils fouillaient, ils se trouvaient des armes. S'ils trouvaient des armes, ben. Ils se doutaient, puisqu'elles avaient dû être remises, les armes, à Hautefort, stockées à Hautefort, les armes de chasse. Mmh. Après, ils ont remis les crosses, mais ils n'ont pas remis les canons. C'est qu'à la Libération qu'ils ont remis les canons. Alors, il ne fallait pas avoir d'armes. S'ils trouvaient une arme, c'était bon. S'ils tombaient sur des bombes, peut-être ils ne disaient rien, mais c'était bon. Oui, ben, ils se dégouillaient, puis ils foutaient le feu au bourg, ils avaient fait brûler. Et forcément, ils en avaient trouvé un sur la route qui venait de chercher sa crosse. Et qu'on ne voit pas s'ils tirent, hein, parce qu'ils tenaient une crosse de fusil, ils n'ont pas regardé s'il y avait des canons ou pas, tu vois, c'était...
Ah oui.
Il fallait faire gaffe. Hein. Oui.
Jusqu'à la fin.
Tant que je gardais avec les maquis, là, je les renseignais, mais...
Sans que les parents ne le sachent.
Ah non, non, ça je ne leur ai pas dit, c'est moi, oh là là, non, parce que...
Et à la fin, vous leur avez dit
Ah, vers la Libération, oui, je l'ai dit.
Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Mais ils ont dit, mais moi, ça... Ils avaient peur que mes parents le disent à quelqu'un de confiant, qu'ils l'auraient redit, et puis...
Ouais, d'accord.
Alors moi, je savais, c'était sérieux quand même, on n'est pas gamin quand même, à 12 ans. Alors, à la Libération, je l'ai dit.
Ils étaient fiers.
Ah ben, sûrement, oui. Mais... Alors, la Libération, ils ont saoulé les cloches, c'est bien raconté. Alors, ils en parlaient sur le journal. Alors, mon père, de 3 jours, ils ne l'ont pas vu. Et Mignot, qui avait un an de moins que moi, c'était le plus costaud, il était costaud, Mignot. On lui donnait une chaise à la petite cloche de la chapelle. Elle n'était pas lourde. Donc, celui qui sonnait la cloche, et puis on lui portait à boire. Il a les moustaches jusque-là, de Pinard. C'était la bonne époque. Alors les vieux, ils ont loupé les maisons pour se faire payer les touraines, tout ça, mon père a compris. Mmh. Alors c'était toute c'était l'euphorie. Quoi.
Mais il y a quand même eu un moment, les Césars n'ont pas eu un problème, parce que moi j'ai entendu dire que...
Ah ben, avant, les maquis étaient venus, ils croyaient que parce qu'ils étaient deux, qu'ils étaient présents, mais alors qu'ils avaient leur fils prisonnier. Alors que les Césars, moi j'étais bien mis avec eux, c'est brave gens ça. Alors, ils étaient venus, là, leur couper les cheveux, sa moustache à lui, à sa dame et tout. Et ça n'avait pas plu à tout le monde. Ils avaient plein de bois, tout le monde gardait les moutons chez eux. Ils disaient jamais rien à personne. Mais bon, comme ils étaient là, ils croyaient qu'ils étaient pour les Allemands. C'est qu'à l'époque, les maquis qui n'étaient pas trop... Vous savez, il y en a des bons et des mauvais, comme dans tout.
Oui, parce qu'ils avaient été dénoncés, alors. Ou comment ça se...
Mais je ne sais pas, comme je ne sais pas.
D'accord.
c'est Sten qui habitait là, un Alsacien, qui était venu les leur couper alors qu'il allait à la messe les dimanches quand ils étaient là.
Ah ouais.
Il était venu couper, je peux le dire, parce qu'ils sont morts tous les deux. Le fils de l'émérigie de Tenon qui était bouché, et bien, il était au maquis avec. Ils sont venus tous les deux leur couper les choses. C'était un ordre qu'ils avaient eu. C'est bien qu'ils avaient voulu, parce qu'ils auraient bien pu. Quand même, ils les connaissaient.
Dans un petit village.
C'était des braves gens, moi, j'ai bon souvenir de ces actes.
C'était des... bon. Parce que de ces actes, c'était des personnes.
Des nobles. Sont... Mais c'est pas parce que c'était des nobles, c'est des nobles comme vous. Ouais.
Enfin, ils étaient plus très fortunés.
Oui, des nobles presque ruinés, quoi. Ils bouffaient tout pour l'entretien du château. Ils avaient des métayers, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent, hein. Mais les gens passaient des deux et les évitaient. Alors que moi, pour moi, c'est des braves gens. Quand j'ai fait ma première communion, à l'âge de 12 ans, je suis tombé dans les pommes. Je sentais l'odeur de cierge qui me décommodait. Bon, le père de César, qui était grand, costaud, il me prend sous son bras. Je me réveille au château, sur un divan, des grosses cordes qui tenaient un gros lustre, comme les cordes que mon père amenait pour attacher le fouet dans les terres, des grosses cordes. Je me suis dit, où je suis là. Je m'étais rendu compte de rien. Moi, j'étais dans les poches, le César m'a pris. C'est lui qui avait fait venir la Roche, tenant, le médecin. J'avais un début de jaunisse. Et il venait me voir tous les jours après, là, chez moi, de César. Il me portait des livres de comptes de sa fille, la plus jeune, Monique de César. C'était écrit dessus. Et ça sentait bon, ces livres. Parce qu'elles se pomponnaient, ces femmes-là. Elles sentaient bon. Hein. Alors, moi, j'étais content. Je portais des livres de comptes de Monique de César. T'es en compte, pour moi, c'était joli. Mais j'ai des bons souvenirs de lui. Quand François est venu me dire qu'il partait, j'aurais presque pleuré, moi. J'ai des bons souvenirs. Je leur ai raconté tous les souvenirs que j'avais de chez lui. Ben, dis-vous, ça me touche beaucoup, ce que vous me dites. Parce que peut-être jamais personne n'aurait parlé à ses parents comme moi. Mm. Alors voilà, l'histoire.
D'accord, c'était ça, l'histoire.
Pendant la guerre, après, il y a eu l'immigration, je viens de le dire.
Et alors, à l'école, qui était votre institutrice?
C'était... on en a eu beaucoup. C'était M. Eliès, au début.
Ah, oh, Eliès.
Et comme moi, à l'école, je m'ai fait l'imbécile, j'ai pas le seul. On était 4 ou 5, on ne savait pas lesquels qui pouvaient faire le plus de conneries, comme on dit. Alors il m'attrapait par les petits cheveux, il montait sur une étagère comme ça. Alors celui-là, il baissait la tête, je tombais. Alors j'étais cloué, là, il te laissait là, la tête contre le mur pendant 2 heures. Après, allez, il te descendait. Et on y passait tous les uns après les autres. Et alors, après, il y a eu mademoiselle Bourdichou.
Comment?
Pendant la guerre. Bourdichou, pendant la guerre, mais elle n'est pas restée longtemps. Madame Bourdichou, elle était mariée. Madame Bourdichou. Après, il y a eu mademoiselle Tronche, qui était des Montagnacs. Et après, Alice Michel, qui était forcément. Et c'est avec celle-là qu'on était des gens commençaient à avoir presque 14 ans. On faisait Dard-la-Voix, Guy Fort, Maligne, là, on était toute une équipe. L'école ne nous intéressait pas que de faire des imbécilités. Alors, on en avait fait des lignes. Tu resteras ce soir à me faire 100 lignes. Une fois, elle te faisait lever, la maîtresse, dans la matinée. Alors, élève Farnier, une fois là, il est mort. Élève Farnier, lève-toi. Il se lève. Qu'est-ce qu'une brasserie? Pas de réponse, silence à l'école. Moi j'étais derrière. Une fabrique de bracelets. J'ai soufflé, une fabrique de bracelets. Il était fier, il croyait que c'était ça. Une fabrique de bracelets. Idiot! Va-t'en, et le tableau au coin, ce soir tu me feras sa ligne. Mais voilà ce qu'on était bon à l'école, on faisait des conneries comme ça. Ou alors on disait de ne pas faire de bruit quand on rentrait, alors la voix, il avait des souliers cloutés. Et à l'époque, les soldats avaient des souliers cloutés. Je ne sais pas où il avait trouvé ça, hein. Sur le plancher, il tapait tant qu'il pouvait. Alors allez, ce soir tu verras sa ligne, on faisait que les anneaux, tu vois. Mais c'était à l'école, bon, après il y a eu la libération, et puis voilà quoi.
Et alors après, mais vous avez arrêté l'école à quel âge?
Oh, à 14 ans.
Et après?
Elle dit, il est au niveau, mais moi je ne le présente pas. Et si vous voulez le présenter, vous faites ce que vous voulez. Mon père dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit, je ne veux pas y aller au certificat d'études. Alors qu'il y avait d'accord, justement, était intervenu que pendant la guerre, il y a des gosses qui avaient manqué d'école, quelquefois, d'être indulgent, tu vois. Peut-être que tu serais joué mon certificat, c'était limite, mais... Alors, je dis, mon père, je ne veux pas y aller. Mais tu sais pas, tu vas aller chercher ton sac, tu vas prendre la faucille, tu vas aller faire le chemin à Terre du Maine pour maçonner. Parce que maçonner avec les vaches, la faucheuse, les javelles. Alors, il fallait faire, parce que le blé, il fallait faire un chemin pour que la première voyage, on passe pas sur le blé. Alors, on coupait 1,50 m de blé. Alors là, il fallait faire la faucille et le chemin. J'étais content, je sifflais. On faisait les andouilles. Mais moi, je me suis toujours bien amusé. Alors après, donc, j'arrivais à jouer. À la Libération, j'ai fait mes premiers bals au Diatonique, à Jeanne. Il fallait sortir le corbillard pour danser, comme vous avez vu là. Et après, j'ai joué à Limeira, un peu partout. Et quand mon père venait de lui acheter un chromatique d'occasion, parce qu'il voulait laisser le Diatonique pour jouer du chromatique.
Parce que Paul jouait de l'accordéon aussi.
Oui, il commençait juste à en jouer du chromatique, mais il partait au maquis. Et là, ça commençait, là, c'était en 1944, les débarquements commençaient à se passer en Afrique du Nord, là, avec Leclerc, et les Allemands montaient à Normandie. C'est là, d'ailleurs, qu'il y a eu l'histoire de Rabault. Et il y en avait quelques-uns sur Périgueux, ils sont partis. Alors, c'était monté un bureau de recrutement à Périgueux pour ceux qui voulaient s'engager pour l'Afrique du Nord. Alors mon frère, il dit, chez moi, je m'engageais pour la durée de la guerre. Alors il était à Périgueux, mais il comptait revenir, mais c'est qu'il l'a embauché de suite, et pas ce soir à Port-Vendre, direction là-bas. Mmh. Et il a trouvé Mimi Chabgier, la fille à Chabgier du Maine, la plus jeune, qui se promenait dans une rue, là. Mon frère, il dit, hé hey, Mimi, t'étais là. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Mais je me suis engagé pour la guerre, mais c'est que il faut que je laisse mes affaires dans un restaurant, là, je dirais chez moi de venir les chercher. À moins que toi tu veuilles les apporter. Ah, mais Paul, je refuse pas. Alors c'est elle qui a apporté les habits chez moi. Il est parti le soir même. Hein. Alors il était tirailleur algérien, après il était au service du matériel, après il a fait carrière dans l'armée.
Oui,
c'est pour ça que je suis resté chez moi, alors que je voulais apprendre mécanicien. J'ai toujours été hanté par la ferraille. Alors voilà l'histoire.
Donc après, vous avez travaillé la propriété ?
Ah ben oui, bon, c'était pas mon dada, mais bon, mon père malade, parce qu'il faisait rien pour m'encourager, lui, parce qu'il était maçon, alors il est habitué à faire les murs droits, quoi, je veux dire. Alors si je faisais une oreille tordue, il dit, oh, il y en a des bourricots, tu vois. Au lieu de m'encourager, il me décourageait. Alors moi, j'aimais bien ma mère, parce que ma mère me comprenait. Parce que je faisais comme elle, elle a voulu apprendre autre chose, travailler la terre. Moi, j'ai fait la même chose avec eux.
Et oui.
Alors, mais elle dit sans doute, c'est pas parce qu'il a fait une rétordue que mais ça lui plaisait pas. C'était maniaque pour le boulot. Et comme j'ai vécu beaucoup plus avec ma mère, parce que mon père est mort à 64 ans, le voyait vieux, mais t'es pas vieux. Alors, ma mère est morte à 84 ans. Alors, j'ai vécu beaucoup plus avec ma mère. Et alors, donc. Moi, j'ai pris la suite quand mon père n'a plus pu travailler. Quoi.
D'accord.
Alors, j'ai fait l'arrangement de famille avec mon père. Il a gardé la maison là-bas. C'est pour ça que mon frère est mort. Il y a mon neveu, l'autre en Bretagne, parce qu'il avait deux fils. Moi, j'en ai pas. Alors, moi, je suis resté là, à la maison de ma grand-mère.
Ça va, je m'en...
Et ma soeur s'était mariée à Azora.
Qu'est-ce que vous cultiviez, alors, du coup ?
Oh, tout et rien. Des noyers, des moutons. Mon père avait des bœufs, moi j'avais voulu des vaches après, parce que pour vendre des veaux, faire un peu d'argent. Quand autrefois ils n'avaient pas les charges, quand maintenant ils vivaient avec un peu de choses, mais il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas l'eau au robinet, on allait à la fontaine chercher l'eau, il n'y avait pas tellement de frais, hein, mais on vivait avec peu de choses. Mais après ça commençait à. Alors moi je voulais des vaches pour faire un peu d'argent, j'avais des moutons.
Il est très vieux là, celui-là, il est vieux, 880. Ça joue, mais c'est pas. C'est pas des trucs bien performants. Jouer à tous les villages dans des petites pièces, c'est pas besoin de
surnom.
Oui, eh bien voilà,
tout le
comme mon père venait d'acheter ce chromatique à mon frère, quand il partait, il commençait à en jouer deux, trois chansons, parce que c'est pas la même méthode. Alors cet accordéon était là, alors moi je voulais laisser, j'ai joué trois ans de diatonique pour apprendre le chromatique. Et mon père ne voulait pas, parce que l'accordéon il était assez gros, et il dit, tu veux le casser ce chauffe-pied. Il appelait ça un chauffe-pied, parce que mon père il a fait un chauffe-pied en planche, ou comme ça, il mettait une tuile creuse avec des braises, hein, pour que ma mère ait les pieds chauds à table, ou quand elle voulait tricoter. Alors, il appelait l'accordéon un chauffe-pied. comme ça faisait une grosse masse, quoi. Je me le cassais, ce chauffe-pied. Alors, quand il n'était pas là, je le prenais bien quand même, parce qu'il me montait. Et j'arrivais à force, j'arrivais à jouer quelques chansons. Ce qui fait que quand je jouais à Jean, ma soeur, mon père filait devant, il venait, mais il allait faire aux cartes. Non, suivait. Ma soeur a plié l'accordéon dans les couvertures, parce qu'on n'avait même pas d'ours à l'époque pour le mettre. Elle me le portait sous le bras, et puis elle me mettait sur la table, sans défaite, je jouais à la tonique. Et vers la fin du bal, puisqu'il finissait à minuit les balles, vers la fin du bal, là, elle sortait le chromatique, elle me le donnait, ma soeur, pour que je joue les trois chansons que je savais. Alors, elle le remettait sur la table, parce qu'à minuit, c'était fini. Mon père n'allait pas tarder à revenir, parce que le bistrot fermait tout. Il passait nous chercher, mais toujours il filait devant, nous on suivait. Alors ma soeur a amené l'accordéon derrière lui, et il ne s'est jamais rendu compte de rien. Puis qu'au jour où j'ai joué à ces deux chansons, après j'ai plus joué avec l'autre, et j'ai fait des balles chromatiques.
Et vous n'avez jamais pris de cours, il n'y a jamais
pas... Ah non, comme ça, moi, de tête. Alors j'ai joué avec beaucoup de monde, quoi. J'ai pris la graine un peu partout. Mmh. Et après, je suis mis à faire des mariages. Mariages, j'en ai fait en pagaille. Je vois tout où on va, là. Tu te rappelles pas de moi, je dis, non. Tu as fait de mon mariage, où ça? Je ne me rappelle pas. Elle se rappelle jusqu'à 15 ans, mais après 30 ans et quelques. Alors je trouve plein de gens, mais la Rosette là, qui chantait avec moi, elle dit, t'es connue partout, toi. Mais tu penses, avant de jouer, tu chantais avec moi, j'avais fait des balles. 73 ans de balles, j'ai fait.
Ah oui?
Oui, ben, ça samedi, dimanche, comme ça.
Mais de quelle année? Alors à peu près, vous avez commencé à
quoi? À 14 ans.
Ah, donc pendant la guerre,
j'ai commencé au diatonique, après j'ai toujours continué. Quoi.
Et après vous avez toujours continué, et vous êtes arrêté quand alors? Quand est-ce que c'était? Vous vous souvenez de votre dernier bal ou pas?
Ben, quand il y a eu le Covid, là, j'ai arrêté. Là.
Ah oui? Vous en faisiez encore?
Ben, j'en aurais fait, je joue encore chez moi.
Ah oui.
Ben, j'ai joué là, dernièrement au feu de Seine à Saint-Anse, qui a un copain qui est venu me chercher. Il joue au diatonique, lui, on a joué tous les deux pour animer comme ça. Mais c'est pas de bal, quoi. C'est une animation. Mais il n'y a plus de bal, alors on a arrêté. Et j'ai joué dans les galas avec plusieurs comme ça.
D'accord.
Si, ils m'accordent bien avec les autres. C'est pour ça que j'ai des accordéons 5 rangs, parce que sur un accordéon 3 rangs, il y a tout. Mais les tonalités, des fois, moi, je jouais une chanson juste, mais pas sur la bonne tonalité. Alors, avec 5 rangs, tu es obligé de trouver la tonalité sans changer ton doigté. Alors là, je dis au gars, un crack, là, donne-moi ta note. Voilà, j'attends, vas-y, je le suis, pas de problème. Parce que y a une méthode de doigté, mais si tu as 3 rangs, si t'es dernièrement, Bonis voulait, il en avait deux avant l'accord à foire à la bancane de Saint-Ors. Il me dit, viens, tu les feras jouer là, parce que je voulais des diatoniques, pas tellement. Et alors, il me dit, allez, joue quelque chose, hein, je joue avec le chromatique. Tout le monde arrivait, là, des gars de basse qui ne m'avaient pas vu il y a peut-être 30 ans, ils croyaient que j'étais mort peut-être. Toujours, toujours, j'ai dit la preuve. Alors plein de gars de basse que je n'avais pas vu à Bellerette, hein, tout le monde venait. Puis je pose ce chromatique, après je prends le diatonique. C'est rare que des gars qui jouent des deux. Alors quand il y avait une grande blonde là, à un moment qu'on nous regardait jouer, elle avait 40 années, avec un copain grand aussi. Quand je pose le chromatique, elle prend le chromatique, elle. J'ai dit, je vais essayer ou quoi? Parce que j'avais pris le diatonique. J'ai eu la chance, j'ai joué le petit vin blanc, le prenait en nous. J'ai pris, c'était même la tonalité que j'ai dit. Alors putain, je jouais avec elle, avec deux accordéons, là. C'était beau, hein, alors, tout le monde. Hein. Alors après, j'ai dit, vous êtes du coin? Alors, je suis de Saint-Thierry, mais je suis de Paris. Elle avait appris avec Verfuren, alors je te dis pas, je veux bien. Alors t'as envoyé le petit vin blanc, mais moi, je suis bien, diatonique. Alors, tu vois, c'est mon manque, ça fait plaisir. Moi, j'ai toujours vécu avec des jeunes comme ça, c'est pour ça que je ne me suis pas vu vieillir. J'ai pas eu de coupure, moi, entre mon enfance, là, tant regarder les beaux vieilles maquées, puis les bals, les mariages. J'ai pas eu de coupure, moi, j'ai tout aimé rire. J'ai toujours vu des jeunes, des gens rigolos, parce qu'au repas, on trouvait des gens rigolos. Alors voilà comment ça s'est passé, voilà ma vie, en gros, quoi.
Oui, oui, oui.
Et maintenant, je suis toujours là, j'ai gardé mes noyers. Pour m'amuser, là, moins d'un hectare, parce qu'on a droit à garder. À partir de 2 hectares, on continue à cotiser. J'ai laissé en friche, j'en ai vendu, et puis j'ai gardé mes noyers, comme ça je les gratte au cultivateur pour ne pas couper les racines. Et puis avec ma retraite de misère, là, et puis voilà, je vais tranquille. Mmh. Mmh. Voilà ma vie, en gros.
Celui-là, j'ai acheté ce mini-basson, c'est le son assez urel. Là. Je fais beaucoup de choses de la Corrèze, moi. Oui, la Corrèze. Oh, c'est au cavalier.